FM.
Beurre FM.
Toujours plus de hits. Beurre FM. Beurre FM. Il est minuit. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver avec le docteur Réginald Lalouche. Comment ça
va,
Doc ?
Bonjour Philippe, très bien. Quand je suis ici, je vais très bien.
Bien, eh ben, le plaisir est partagé. Nos auditeurs sont contents et nous avons tout pour faire une bonne émission. Je rappelle que vous êtes médecin, ingénieur biomédical. Vous nous avez expliqué dans la précédente émission pourquoi vous étiez devenu ingénieur biomédical. Vous retrouvez l'émission sur YouTube. Et vous êtes chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et alors vous êtes là pour parler de votre nouveau livre qui est là, Sucre, l'ennemi numéro, public numéro 1 chez Albin Michel. Oui. Ça cartonne, voilà, en tête des ventes.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
Vous l'aurez en incrustation sur la vidéo.
C'est vrai, mais il y a une, je crois qu'il y a une vraie volonté pour la plupart des gens de faire de la prévention. Ils ont compris que on ne pouvait pas tout faire, que le système, même s'il est bon, ne pouvait pas tout faire, et que quand on parle de diabète, par exemple, on parlera aussi de NASH, de la maladie du foie gras. En fait, ce sont des maladies qui au début sont totalement réversibles. Alors il faut s'en occuper soi-même. Mmh. Et donc, dans ce livre, vous avez les outils pour s'en occuper, vous en occuper vous-même. Voilà, c'est ça. Je pense vraiment, vraiment, on a des outils merveilleux. On a eu les podomètres pour compter les pas, il y a 15 ans. Mmh. On a eu les tensiomètres pour prendre sa tension chez soi en appuyant sur un bouton. Aujourd'hui, on est capable, grâce à un capteur, de connaître sa glycémie, c'est-à-dire comment le sucre est dans le sang. Mmh. Et quand on a tout ça, eh ben, on peut agir.
Et vous soulevez la polémique.
Absolument.
Voilà, sur justement cette utilisation des capteurs, ça fait réagir la communauté scientifique. Alors l'idée, c'est de reprendre votre santé en main et de prendre conscience notamment des sucres qu'on consomme et qu'on ne voit pas, mm-hmm. et que vous considérez comme des additifs alimentaires.
Absolument.
Hein, donc ça, c'est important aussi de dire.
Oui, ce que vous dites est très important parce que dans la tête de beaucoup de gens et dans l'inconscient social, le sucre, c'est un produit naturel. Je rappelle que le sucre, on le fait à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. La canne à sucre, on l'écrase, on en fait un jus. Ce jus, on va le chauffer, on va le dessiquer, on va le cristalliser. C'est un produit industriel, le sucre en poudre. Hein. Donc, faut pas. C'est pas naturel. On le connaît, nous, depuis 2 siècles. Et il est entré dans nos vies vraiment de façon très importante après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est nouveau pour nous.
Voilà.
Et pour notre corps.
Voilà.
Et
à noter que le sucre, aujourd'hui, se dissimule sous une vingtaine de dénominations. Hein. Il n'y a pas écrit sucre, ni glucose, ni.
Sur les étiquettes, il faut regarder glucides, dont sucre. Dont sucre, ça veut dire qu'on a rajouté du sucre en plus.
D'accord. Et alors, souvent, c'est au 100 grammes, c'est.
Alors, le problème.
C'est important parce que.
C'est qu'on vous met pour 100 grammes alors que la portion, elle est parfois de 300 grammes.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
donc pour avoir le.
Voilà, donc
le
c'est
total.
Un vrai métier. Hein. Il faut s'entraîner. Mm-hmm. Mais entraînez-vous, ça vaut le coup.
Alors, je vous invitais pour parler de la NASH parce que vous m'avez dit la dernière fois, je guéris la NASH.
Oui.
Ah, je lui dis, tiens, on guérit la NASH.
Ça,
ça se guérit. C'est une nouveauté, docteur Alouche. Alors, déjà, la NASH n'est plus la NASH, c'est la MASH.
Oui. Métabolique Associated Steatohepatitis, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on a voulu. Dans la NASH, il y a une notion de fibrose.
C'était stigmatisant, soi-disant, d'appeler la NASH la NASH.
Donc, on l'appelait la MASH, oui. Enfin, ça va pas simplifier les choses. En gros, vous avez le foie gras seul, c'est-à-dire votre foie est gras, il y a du gras dans les cellules du foie qu'on appelle les hépatos. Hépatos, c'est foie, cytos, les cellules. Mmh. Et puis, quand cette NASH, quand ce gras commence à être installé, il va enflammer le foie, et là, le foie, pour se défendre, va faire de la fibrose. C'est-à-dire qu'il va se raidir un petit peu, il va faire des filaments, un peu de collagène, un peu de trucs comme ça, de la fibre. Et donc, à ce moment-là, c'est le début de la fibrose qui va évoluer vers la cirrhose. Il faut savoir aujourd'hui que la cirrhose, elle n'est pas principalement due à l'alcool maintenant, elle est due justement à ces NASH, à ces maladies du foie gras. Donc on peut avoir la maladie du foie gras sans aucune complication, d'accord ? C'est le cas de la plupart des gens. Et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, eh bien le foie va commencer à se fibroser et c'est le début des ennuis parce que la NASH est réversible, la fibrose ne l'est pas. On peut l'arrêter, mais on ne peut pas, la rendre réversible.
Alors l'OMS, justement, a émis des warnings, hein, puisque ça fait partie de ces maladies de civilisation.
Absolument.
On parle d'épidémie.
Oui.
Alors il y a un chiffre qui circule, hein, 440 000 personnes à l'horizon 2030. Mm-hmm. Mais ça fait partie vraiment des maladies dont on ne parlait pas il y a 20 ans, en fait.
Non, on n'en parlait pas parce que d'abord, on avait l'échographie existait, mais on faisait pas d'échographie hépatique et des voies biliaires, parce qu'il faut regarder la vésicule aussi. On la faisait pas systématiquement maintenant. Dès quelqu'un a un peu de surpoids, qu'on voit que la glycémie est pas très très bonne, on fait tout de suite une échographie hépatique et des voies biliaires pour voir si on le voit à l'échographie. Et puis, il y a un autre outil qu'on avait déjà développé ensemble il y a plus de quelques années déjà maintenant, ce qui s'appelle le fibroscan, qui permet de mesurer la fibrose. S'il y a fibrose, vous le saurez. Et ce sont des examens non invasifs. Ça fait pas mal. On pose juste une sonde avec un peu de gel sur le côté droit. Et comme ça, on peut analyser son foie. Donc c'est, on n'en parlait pas parce que aussi.
Jusqu'à Pierre Ménez. Enfin, moi, je pense que ce qui a permis de révéler la maladie au grand public, c'est Pierre Ménez qui a dit publiquement qu'il était atteint d'une NASH.
Exactement. Et d'ailleurs, il a eu une greffe, si ma mémoire est bonne. Ouais, ouais. Une greffe du foie. Parce que sa NASH était agressive et qu'elle a fibrosé très vite. Et qu'en plus, le risque, c'est d'avoir aussi un cancer, un hépatocarcinome. Parce que souvent, la NASH. Alors, c'est là le grand paradoxe. Vous prenez sur 10 personnes qui ont une NASH, il y en a 9 qui vont vivre avec sans aucun problème. Et puis, il y en a une qui va peut-être évoluer vers une fibrose, une cirrhose ou un cancer. Et où ? Ça peut être et en plus. Hein. Donc, voyez, personne ne peut aujourd'hui prédire ce qu'une NASH deviendra. Personne. Il n'y a aucun facteur qui peut vous dire, voilà, vous aurez un cancer ou vous aurez une fibrose. Et pour compliquer les choses, on sait que lorsque le foie est gras, le pancréas est gras. Donc, quand le pancréas est gras lui aussi, vous comprenez, c'est. Comment ça marche ? Voilà. Ici, imaginons que ce studio, ce soit une cellule hépatique. Eh bien, vous avez des dépôts. Ici, vous avez un gros dépôt de gras. D'accord ? Et là, un gros dépôt de gras. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous voulez vous déplacer, vous allez être obligé de faire le tour. Ça va vous ralentir. Peut-être que là où il y a du gras, vous aviez posé des feuilles de papier. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher vos feuilles de papier. Et comme le foie, il fait plus d'une 150 transformations biochimiques, si le gros pâté de gras, il se met à un endroit où le foie travaille et fait certaines choses, je vous rappelle le foie, il fabrique les protéines, il traite les acides gras, il s'occupe des métaux lourds, il détoxifie le système lymphatique, il fabrique la bile, il stocke les vitamines, il stocke le sucre et il libère le sucre, il régule la glycémie, il fait un nombre de choses absolument colossales. Donc si vous avez des choses qui le gênent, eh ben, il va commencer à étouffer. Voilà. Donc c'est pour ça que on peut pas savoir si le gros pâté de gras, il est sur un endroit qui est vital. Eh ben, alors bien entendu, il y a des milliards des pâtes aussi, donc c'est pas ça qui va être, parce que le foie, vous savez, il est surdimensionné chez l'homme. Hein. Mais bon, mais
maintenant, c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'en fait,
il est trop gros par rapport à ce qu'on aurait besoin finalement.
Tout à fait. Le foie, vous savez que souvent, quand on fait des greffes, et que malheureusement, il y a un greffon, heureusement pour le receveur, mais malheureusement pour le donneur, on peut le couper en deux ou en trois. Parce que vous savez que le foie a aussi un avantage énorme, c'est qu'il se régénère tout seul. Il regrossit. Donc vous mettez un tiers de foie, puis il va reprendre sa place. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsque nous étions dans les cavernes, et hommes préhistoriques, on mangeait de tout. Et comme le foie est l'organe qui métabolise, qui gère, qui détoxifie, qui s'occupe de nettoyer le corps, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'on avait besoin d'un gros foie parce qu'on avait, on avait des produits pas très propres et pas très digestes à manger. Voilà. Donc le foie est et c'est le deuxième organe en termes de poids dans le corps humain. Le premier, c'est la peau, qui est un organe, je le rappelle. Voilà.
Est-ce que ce qu'on appelait la maladie du foie, alors c'est toujours pénible parce que quand ça change de nom, au bout d'un moment, on continue à l'appeler par l'ancien nom, puisque ça a été popularisé là-dessus. Donc bon, est-ce que ça veut dire que la MASH, c'est la maladie de ceux qui mangent trop de gras ?
Ah, pas du tout. En fait,
parce que finalement, maladie du foie gras, est-ce que ça veut dire que c'est ceux qui mangent trop de gras ?
Alors c'est faux et vrai. C'est-à-dire c'est faux parce qu'en fait, il faut savoir que le sucre. Quand vous mangez beaucoup de sucre, le sucre va être stocké par le foie sous forme de triglycérides. Mmh. C'est facile à comprendre. Tri, trois, glic, glucose, sucre. Et il y a un glycérol qui les relie. Pourquoi ? Parce que c'est une forme très simple et qui prend très peu de place pour le foie d'aller stocker le sucre. D'accord ? Mais il se traite aussi le gras. Donc si vous avez une alimentation trop sucrée et avec des graisses saturées, et bien à ce moment-là, c'est-à-dire les graisses qu'il faut limiter à peu près à 15 à 20% de l'apport de toutes les graisses, et bien à ce moment-là, vous avez le foie qui va rendre gras. Mais ce qui rend le foie gras, c'est le sucre. Il y en a un qui est un champion pour ça, c'est le fructose.
Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ah, c'est pas la maladie de ceux qui mangent du gras.
Non. Non, c'est les maladies des gens qui mangent beaucoup de sucre. Et le sucre, il peut se trouver dans le sucre en poudre, produit additif, comme je l'ai raconté, mais ça peut être aussi les féculents. Parce que je vous rappelle que les féculents, riz, pâtes, pommes de terre, pain, c'est que de l'amidon. Et l'amidon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes de millions de glucose attachées. Voilà. Et donc, quand le foie voit arriver ça, eh ben, il faut bien... Soit il va le brûler parce que vous avez une activité physique, soit il ne va pas le brûler, il va le stocker. Alors au début, il le stocke dans vos cellules, qui sont des cellules typées pour ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle les adipocytes, adipose, graisse, cytose, cellules. Vous les avez autour du ventre, autour de dans les joues, dans les bras, et ainsi de suite. Mais un jour, un beau jour, vous n'avez plus de place. Parce que c'est génétiquement, c'est codé génétiquement. Vous n'avez plus assez d'adipocytes de stockage. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le foie, ben, il va garder le sucre chez lui et il le garde sous forme de triglycérides.
Et va stocker dans le foie.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc, ça paraît paradoxal, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche.
Alors, vous avez parlé de surpoids tout à l'heure. Mm-hmm. Alors, je connais quelqu'un, moi, qui a fait une NASH, mais alors, qui n'est pas du tout en surpoids, qui est même plutôt très mince.
Oui.
Donc, il a été surpris d'apprendre qu'il faisait une NASH, parce que finalement, alors, il avait l'impression de bien s'alimenter et de pas être sujet, en tout cas, à la NASH. Mm-hmm. Donc, quel est le lien entre la NASH et le surpoids?
Alors, il y en a trois. D'abord, il y a un côté héréditaire. Il y a des hérédités. Il y a des gens qui ont des foies plus fragiles que les autres. Entre l'homme et la femme, l'homme a un foie moins protégé que celui de la femme. Pourquoi ? Parce que comme les femmes peuvent avoir des fœtus qui ont un rhésus positif et elles vont faire des anticorps, en fait les œstrogènes, les hormones féminines vont protéger le foie de la femme. C'est pour ça qu'une femme, après, au moment de la ménopause, va redevenir, avoir un statut équivalent à celui de l'homme. Donc pendant sa phase où elle peut être enceinte, son foie est protégé.
Mais est-ce que les femmes qui justement, et ça c'est une auditrice qui nous a posé la question, qui sont sous pilule, ont plus de risques de développer des NASH?
Alors ça dépend des pilules, encore une fois, c'est terrible en médecine, ça, on dit toujours ça dépend.
Oui, mais c'est une question qui revient souvent, voilà, quelqu'un qui dit, finalement c'est à cause de la pilule que vous avez développé
votre pilule, la pilule peut provoquer effectivement ce qu'on appelle un NAFLD, c'est-à-dire le foie gras. NAFLD, ça veut dire NAFLD, c'est non alcoolique, c'est-à-dire c'est pas à l'alcool. Fatty liver, fatty c'est gros, liver c'est le foie, disease maladie. Voilà. Et donc il y a effectivement des femmes sous pilule qui vont faire un peu plus de gras que les autres et particulièrement dans le foie. Mais donc le premier facteur c'est l'hérédité. Le deuxième facteur quand même c'est la sédentarité. Parce qu'il faut savoir que le foie, il se détoxifie, sa capacité à se nettoyer, elle est débit-dépendante. Elle est dépendante du débit cardiaque. Il y a 1,5 litre de sang qui passe dans votre foie pendant qu'on parle. Si vous commencez à faire du cardio, il y aura plus. Eh bien, proportionnellement, si vous augmentez d'un facteur 30%, 40%, vous allez augmenter proportionnellement d'un facteur 30 ou 40% la détoxification du foie. Et puis, il y a quand même le facteur alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs de bonne foi. Des erreurs alimentaires de bonne foi. Ils pensent que ça, c'est bon. Vous savez, dans l'inconscient social, on dit « Ah ben, ça, c'est bon pour la santé. » La réalité, c'est que le foie, lui, il n'aime pas les surcharges. Et qu'il faut lui apporter de minimum de sucre. Parce que le sucre, pour lui, c'est un vrai problème. J'ai parlé du fructose. Le fructose des fruits, c'est très bien quand on les mâche et qu'on les avale, qu'on les boit pas sous forme de jus. Pourquoi? Parce que lorsque le foie transforme le fructose en glucose, parce qu'on peut pas utiliser le fructose directement. Mais on va y revenir.
Oui, et c'est une question qui revient souvent. Le docteur Régine Allouche est avec nous. Je rappelle que vous publiez Doc Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Vous montrez votre livre à la caméra. Voilà. Puisque l'émission sera diffusée sur YouTube.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Réginald Allouche qui est avec nous, on parle de la NASH. Peut-on guérir la NASH ce matin? Je rappelle que vous publiez Doc Sucre, l'ennemi public numéro 1 aux éditions Albin Michel. Vous parliez avant la pub de ce fructose, des fruits qu'on doit mâcher plutôt que de les boire en jus. Il y a un auditeur en antenne qui dit ouais, mais ils font ça exprès pour faire peur aux gens. Et finalement, on peut boire un petit jus d'orange, ça n'a jamais tué personne.
Il a raison, de temps en temps. de temps en temps. C'est-à-dire que il a raison, et on n'est pas là pour faire peur aux gens, parce que le but c'est que les gens aient du plaisir et une belle vie et qu'ils soient en bonne santé quand même. Il faut rappeler que c'est ça un médecin. Un médecin c'est ça. Le problème c'est la physiologie. Vous savez, quand vous savez, je pense qu'il y a des mécaniciens qui nous écoutent, c'est que j'ai une passion pour la mécanique. Si vous voulez comprendre pourquoi vous avez une panne, c'est que vous devez comprendre comment le système fonctionne. Et le fructose qui est dans les fruits, c'est un sucre qui est malheureusement qui n'est pas utilisable en direct. D'accord ? Il y a des animaux, des mammifères qui l'utilisent en direct. Eh ben pas nous. Nous, il faut qu'il passe par le foie, par la case foie, et le foie va le transformer en glucose, qui est le sucre utilisable. Voilà. Donc le problème, c'est que quand vous mangez, c'est pas le problème justement, ce qui est bien, vous mangez un fruit, vous mangez une pomme, vous la mâchez, dans la pomme, il y a du fructose, mais il y a de l'eau, des minéraux, des fibres, des vitamines. Ça va mettre du temps, ça va dans l'estomac. Dans l'estomac, il va y avoir la bouillie qui va se faire avec les pulsions de l'estomac plus l'acidité, puisque vous savez que pour les mécaniciens toujours, c'est l'équivalent de l'acidité d'une batterie de voiture, hein, notre estomac. Hein. Donc, c'est un pH de 3. Donc, après, ça va aller dans le duodénum, qui est là où il y a le première partie de l'intestin, et puis après, ça va être absorbé, et là, ça va aller au foie, et le foie, il a le temps de tricoter, de prendre, je te prends un fructose, je te fais un glucose, tout va bien. Mais si vous avalez un jus d'orange, un verre de jus d'orange, il y a trois oranges dedans, que vous allez avaler.
Là, on parle de d'orange frais, hein.
Oui, mais même les autres, ils ont du fructose aussi, les autres oranges en bouteille. Voilà, vous avalez ça. Alors, si elle est en bouteille, dans un supermarché, à la lumière, oubliez la vitamine C, hein. Il n'y en a plus. D'accord, parce qu'elle est sensible à la lumière. Mais imaginons que vous avez le bon jus bien fait par le fabricant qui fait attention et tout. Ok, vous l'avalez, mais vous avalez trois oranges quasiment d'un coup. Votre foie, il va voir arriver trois oranges. À ce moment-là, il faut qu'il bosse, hein. Et c'est là où il y a un problème avec le fructose. D'ailleurs, regardez, la NASH, la maladie du foie gras, elle est très importante, elle a une incidence très forte aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, quand ils sucrent les sodas ou les boissons sucrées, les sucres avec, pas avec du saccharose. Vous savez, le saccharose, le sucre en poudre, c'est un glucose, un fructose. Donc il y a quand même la moitié qu'il faut, faut travailler. Eux, c'est que du fructose.
De maïs en plus.
De maïs, c'est ce qu'on appelle le high corn syrup. C'est-à-dire le sirop haut en maïs. Enfin, le high corn syrup, voilà. Le sirop de maïs. Le sirop de maïs, c'est que du fructose. Et le fructose, à haute dose, fait faire du gras au foie. Voilà, c'est tout. Donc l'incidence de la NASH est très supérieure aux États-Unis. Et moi, je milite beaucoup pour que la communauté européenne n'accepte pas que nous utilisions les édulcorants à base de maïs pour sucrer les produits. Parce que vous savez que le maïs est subventionné souvent. Et il a un avantage, c'est qu'il y a deux récoltes. Donc en termes de rotation des terres, voilà, et ainsi de suite. Mais ça appauvrit les terres. Enfin bon, c'est un problème de politique commune agricole. Mais la réalité, c'est que je ne souhaite pas qu'on édulcore nos jus pour nos enfants et pour nous-mêmes avec le sirop de maïs.
Et alors, on les repère comment, donc
C'est marqué sur la boîte.
Ouais.
Il y a marqué sirop de glucose fructose ou sirop de fructose ou fructose et ainsi de suite. Voilà. Et il y a même pire, c'est que dans les années 70 en Allemagne, vous aviez des produits pour diabétiques à base de fructose. Donc du chocolat pour diabétiques, tout était pourquoi ? Parce que le fructose, il a cet inconvénient, mais il a un petit avantage, c'est que il n'augmente pas l'insuline. Il n'y a pas de pic d'insuline quand on prend du fructose. Tout simplement parce que ce sucre n'est pas pris en compte pour l'insuline, pour augmenter l'insuline. Donc on s'est dit, extraordinaire, on va donner ça aux diabétiques. Malheureusement, ça rend le foie gras, ça donne le foie gras. Donc en fait, et le foie gras, c'est la porte ouverte au pré-diabète. En fait, tout est lié.
Alors attendez, parce que le foie gras, ça vient avant ou après le diabète ?
Alors, ça vient, en général, ça vient avant. C'est un précurseur. Le foie, c'est celui qui, en fait...
Ah d'accord, oui. Donc,
c'est pas
induit par le diabète. Non, c'est pas une maladie
Non. C'est que le foie est celui qui a les stocks de sucre de l'organisme. C'est lui qui les libère, d'accord, de temps en temps, quand on en a besoin. Par exemple, quand un diabétique est malade, le foie va libérer beaucoup de sucre pour répondre à l'agression. Parce que quand on est agressé, on a besoin de force. Donc, il balance le sucre comme ça. Et donc, le foie, si vous voulez, c'est lui qui régule la glycémie. C'est le pancréas qui fait l'insuline pour pour faire entrer le sucre dans les cellules, peut-être un petit rappel. Quand vous mangez du sucre, ça va dans l'estomac, après ça passe dans l'intestin. À ce moment-là, vous avez l'insuline, qui est l'hormone sécrétée par le pancréas, qui va faire, qui a deux fonctions. La première, elle a une petite clé, elle ouvre la porte des cellules pour que le sucre rentre. Parce que si le sucre ne rentre pas, ben la cellule meurt. Voilà. Et la deuxième fonction de l'insuline, c'est que tout le sucre qui n'est pas utilisé est mis sous forme de gras dans les adipocytes. Voilà. Donc, c'est le foie qui libère et qui retient. C'est pour ça que vous avez des gens, par exemple, le matin, qui vous disent, docteur, je ne comprends pas, je n'ai rien mangé hier, quasiment. Ce matin, je vais au labo et j'ai une glycémie à 1,20. La normale, c'est entre 0,7 et 1,05 g. Et j'ai un 20. Je ne comprends pas. Ça, c'est simple. Il n'a rien fait de particulier, ce monsieur. C'est son foie qui, le matin, est un petit peu résistant à l'insuline. Donc, il libère du sucre. Normalement, le pancréas, quand il libère du sucre, va envoyer de l'insuline et donc le sucre va rebaisser. Eh bien, pas dans ce cas-là, il est résistant. Et la résistance à l'insuline, c'est le début du diabète, le début, c'est ce qui est permanent dans le syndrome de l'ovaire polykystique. C'est, voilà. Donc, il faut combattre la résistance à l'insuline. Et devinez quoi ? Quelle est la meilleure façon de combattre la résistance à l'insuline ? C'est l'exercice physique. Voilà. Donc, voilà. Dès qu'on a ces signes-là, il faut prendre l'exercice physique comme un nouveau métier, avec des impératifs, des dates, des moments, et ainsi de suite. Je sais, c'est pas facile à entendre pour ceux qui font pas d'exercice, mais c'est le meilleur traitement et c'est le moins cher.
Oui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les docteurs disent toujours la même chose. Bougez-vous, faites un peu d'exercice.
Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin pour le docteur. Il faut voir si le patient a de l'arthrose, s'il a mal. Parce que quelqu'un qui a mal, vous n'allez pas lui dire...
Il ne va pas aller faire d'exercice, voilà. Hein, je peux vous dire.
Donc, il faut trouver des exercices adaptés. Peut-être que souvent, les gens développent le bas, les jambes. Font de l'aquagym, ou peut-être qu'il faut développer le haut. Parce que quand on développe le haut, eh bien on fait passer par les carotides, on fait passer du sang pour le cerveau. Vous savez, quand on fait de l'exercice, on fait de l'hormone de croissance, donc on fait des neurones. On fait tourner le système lymphatique, donc on va beaucoup mieux, on est moins malade, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut juste adapter la réponse. Bouger, c'est performatif. Allez, vous allez bouger, vous allez mieux. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut expliquer quels sont les bons sports.
Vous avez dit, la nage, c'est la cirrhose de ceux qui ne boivent pas. Qu'est-ce qui amène à consulter ? Parce que comme souvent avec les maladies du foie, ce sont des maladies à évolution lente qui sont sans symptômes, puisque le foie est...
totalement silencieux.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui nous écoute ce matin à consulter, à se dire, est-ce que j'aurais pas une nage ?
Alors,
parce que la personne dont je vous parlais tout à l'heure... donc, qui ne soupçonnait pas d'avoir une nage, elle est tombée sur le
diagnostic.
Elle a pas compris.
Alors c'est vraiment une question très très compliquée, parce que le foie ne fait pas mal parce qu'il n'a pas de terminaison sensitive. Voilà, il ne fait jamais mal. Quand il commence à faire mal, c'est que c'est la coque qui commence à... il a trop augmenté ce qu'on appelle l'hépatomégalie, c'est-à-dire qu'il a augmenté de taille, parce que pour se défendre, il augmente de taille. Hein. Et à ce moment-là, ça commence à faire mal. Mais là, on est déjà dans un processus assez pathologique. Il ne fait jamais mal. Donc ce qu'il faut, c'est faire une forme d'introspection de sa propre vie. Est-ce que je fais de l'exercice ? Est-ce que de temps en temps je consomme un peu trop de sucre, de pâtisserie, de féculents ? Est-ce que je vais en liaison avec l'exercice ? C'est évident que si on fait de l'exercice et qu'on brûle tout ça, ça va. Troisièmement, est-ce que dans ma famille on a un foie fragile ? Parfois j'entends ça. Surtout en Afrique du Nord, par exemple. Il y a des pays où vraiment, en Afrique du Nord, il y a un problème avec le foie. Alors qu'il y a d'autres pays qui sont des gens qui peuvent... d'ailleurs, je pense qu'on ne boit pas d'alcool en Afrique du Nord.
Mais non.
Probablement, mais non. Pour cette raison. Cette raison,
mais on mange quand même très sucré.
On mange très sucré. Il y a les gâteaux. Bon, les gâteaux, c'est de la bombe.
Beaucoup de féculents.
Voilà, beaucoup de féculents. Mais parce que sont des pays... Ouais. C'est des pays qui ont été des pays pauvres. Si vous regardez des photos de l'Algérie des années 20, les gens, ils étaient cachectiques. Ils n'avaient rien à manger quand même.
Comment vous dites ?
Cachectique. Voilà, excusez-moi.
Ça vaut combien au Scrabble ? Cachectique. Non, il est bien, je le prends celui-là.
Voilà.
Je le garde.
Donc,
c'est une alousserie, on le mettra dans notre.
Voilà, cachectique.
Cachectique.
C'est-à-dire qu'ils c'était incroyable.
Et donc, massier,
maintenant, ils ont découvert une forme de confort et le pain est devenu quasi sacré.
Oui, mais le pain est blanc,
le pain est blanc,
très,
il est
très blanc.
Si j'ai un conseil à leur donner, c'est prenez des pains avec des farines plus complètes, mangez moins de... Moi, je connais des gens, des amis algériens, c'est une baguette par personne, par jour. C'est pas possible, ça. C'est que du sucre pur. Voilà, c'est comme si moi j'ai du sucre. Voilà. Donc il faut. Mais je comprends aussi, quand vous avez manqué pendant des années, pendant des décennies, quand on ouvre le robinet, on y va. Et c'est normal, c'est humain. Donc pour revenir à votre question sur
comment,
la nage,
voilà, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à consulter et pour faire quel examen d'ailleurs ?
Il peut y avoir, à ce moment-là, déjà, des modifications de la régulation des sucres. Une certaine irritabilité aussi. Hein, vous savez, on dit souvent il est atrabilaire. Vous vous souvenez de ce terme ? C'est un autre terme.
Atrabilaire, oui.
Atrabilaire. Dans Molière, on dit c'était le malade imaginaire, il était atrabilaire. Je me souviens plus très bien. Et en fait, ça, bilaire, ça veut dire bilieux. Mmh. Bah, quand on dit vous êtes bilieux.
Mais c'est parce qu'effectivement, c'était à l'époque, on vous demandait si vous étiez bilieux.
Voilà. Ouais. Et puis parfois, alors, mais
c'était les humeurs.
C'était, voilà, les humeurs. C'est pour ça que les médecins regardaient le fond de l'œil, savoir s'il n'était pas un peu jaune, parce que dès que le foie va pas bien, on a parfois le fond des yeux un peu jaune. Mais globalement, je ne parle pas de la maladie de Gilbert, hein, qui est une maladie génétique qui n'a aucune importance, parce qu'il y en a beaucoup, on a beaucoup au Maghreb également, de maladie de Gilbert, mais c'est une maladie qui n'a pas de conséquences particulières. Bon, on est un peu jaune parfois, enfin bon, les médecins sont très rassurants là-dessus. Et donc, on peut être un peu irritable. On peut avoir des problèmes pour digérer. On n'est pas bien. Et là, il faut faire, c'est simple, on fait une glycémie à jeun. On fait une hémoglobine glyquée pour voir sur les trois. Ça permet d'avoir une glycémie en moyenne sur les trois mois. Et on fait une écho-hépatique. Voilà. Et on sait. Et l'avantage de faire ça.
Et ça, c'est l'examen qui permet de savoir si on a une NASH.
Voilà. Exactement. Et à ce moment-là. Alors, bien entendu, on fait aussi ce qu'on appelle les transaminases. Les alates et les azates. C'est des Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous ne sentez pas votre foie, quand il commence à souffrir, les cellules explosent. Et elles libèrent dans le sang des enzymes. Et les enzymes caractéristiques du foie, c'est les alates. Voilà, SGPT. On voit aussi dans certains... Voilà. Donc, SGPT ou ALAT. L'autre, le ASAT, ASAT, c'est pas spécifique du foie. C'est foie, cœur, muscle. Donc, si vous avez les alates et qui ont augmenté... Et moi, j'ai une petite manie, mais c'est qu'au-dessus de 25-30, je me méfie. Même si le maximum est à 40 ou 50. Ça veut dire quelque chose. Il faut être gentil avec son foie, parce que son foie, il va être très très gentil avec vous. Vous savez, les Chinois l'appellent le général, hein. C'est le patron, hein. Pas de foie, pas de vie. Donc, il fait tellement de choses, tellement de modifications, tellement de transformations. Et donc, je pense que l'alimentation aujourd'hui est une alimentation qui est particulièrement chargée en polluants, en pesticides. Et comme c'est le foie et le pancréas qui s'en occupent, le pancréas est la victime, le foie est le filtre. Mais le pancréas est victime puisque c'est perturbateur endocrinien et c'est une glande endocrine.
Bien. Et le docteur Alouche nous dira tout à l'heure comment il soigne la NASH. Je rappelle, docteur Alouche, que vous publiez Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Vous avez la gentillesse d'être notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, peut-on guérir d'une NASH ? On en parle ce matin avec le docteur Réginald Alouche. Les États-Unis ont annoncé il y a quelques semaines que le premier traitement au monde contre la maladie du soda vient d'être approuvé par la fameuse FDA. La Food and Drug Administration, c'est l'autorité sanitaire qui valide les médicaments. C'est vrai que les Américains sont en pointe sur la NASH.
Vous savez que vous êtes un génie, vous ?
Alors, allez-y.
Parce que vous venez de dire exactement la bonne. Vous avez dit la maladie du soda. C'est ça. C'est encore plus pratique. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous, les sodas aux États-Unis sont édulcorés avec du fructose. Et donc, on s'est pas cassé la tête aux États-Unis parce que les Américains, ils ont beaucoup de défauts, mais ils ont une qualité, ils sont simples. Et donc, ils font simple. Et ils disent, c'est la maladie du soda. Parce que dans le soda, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du fructose. Donc, c'est QFD. Quand vous mangez beaucoup, vous avalez beaucoup de fructose, et si vous ne le brûlez pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour débarrasser votre foie de ce fructose, eh bien vous avez une maladie qui s'appelle la NASH, maladie du soda.
Bon, c'est tout récent, hein, ça.
C'est tout récent,
semaines,
donc de toute façon,
semaines,
il va y avoir 3-4 produits qui vont arriver.
Ouais. On attend les prix, comme toujours.
On attend toujours le prix, parce que souvent les prix des nouveaux médicaments sont élevés, parce qu'il leur faut beaucoup de développement, et il y a beaucoup, en termes d'enregistrement de médicaments, il y a beaucoup de procédures. Mais c'est des produits qui auront probablement, s'ils sont vraiment actifs, ils auront des effets indésirables. Toujours. La définition d'un médicament actif pour moi, c'est il a des effets indésirables. Donc il faut les connaître. D'abord pour prévenir les patients, et puis pour être sûr qu'il colle bien à la pathologie et que le risque-bénéfice est bon, qu'on ne prend pas trop de risques.
C'est pas magique. Alors quels sont les différents stades d'évolution de la NASH ?
Ah bah la NASH au début, donc c'est en fait ce qui fait l'évolution de la NASH, c'est deux choses. C'est la quantité de gras. Donc quand vous faites par exemple un fibroscan, vous allez avoir un indicateur qui va aller de 150 à 350 et qui va vous dire en fait combien l'état de gras que vous avez dans ce studio, et il va vous donner la quantité de gras.
C'est un chiffre que ça vous donne, le fibroscan.
Et après, il y a deux chiffres dans le fibroscan. D'abord, la quantité de stéatose, de gras. Et le deuxième chiffre, c'est la fibrose. C'est-à-dire, en fait, le fibroscan, c'est quoi ? C'est un outil qui tape un truc et il mesure le bruit incident, comme dans la recherche pétrolière. On tape dans le sol et puis on attend, on voit ce que ça remonte. Et en fait, ça donne le niveau de fibrose, c'est le deuxième chiffre. Et donc, vous avez F0, F1, F2, F3. Voilà. Et donc, F0, F1, parce que c'est difficile de dire F0. F0, F1, c'est le niveau le plus bas. Et puis quand on est à F2, là, c'est la fibrose installée. Et F3, c'est une fibrose importante. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on sait et qu'on peut évaluer. Mais bien entendu, l'examen, le meilleur examen pour le faire, c'est la BPH, la ponction biopsie hépatique. Il y a un seul problème, c'est que parfois, en fait, on vous enfonce un trocard dans le foie et on fait un carottage, comme dans la recherche pétrolière aussi. On fait un carottage, on analyse et on regarde. Et là, c'est juge absolu. On sait, mais on le fait
à l'hôpital.
À l'hôpital,
oui, ça c'est pas
avec une anesthésie
cabinet.
Locale. Ouais. On peut pas parce qu'il y a trop de risques. Il y a parfois de la casse, si j'ose dire. Donc des gens qui, bah oui. Alors, c'est dommage d'aller mourir pour une ponction biopsie.
Alors quand vous dites que
quand on a un problème hépatique. Il faut savoir, comme c'est le foie qui gère la coagulation, qui fait les facteurs de coagulation, si vous avez un foie qui est en mauvais état et que vous faites un acte sur un foie en mauvais état dans un mauvais environnement et qui ne coagule pas, vous êtes vraiment, vraiment dans les problèmes.
Bien. Alors, quand vous dites que vous soignez la NASH, vous me l'avez dit, là. Enfin, c'est pour ça que je vous ai dit, on va faire une émission là-dessus.
Voilà.
Vous étiez content et vous aviez raison.
Ouais, parce que ça me passionne.
Bon.
Et moi, j'adore les choses qui paraissent impossibles. Parce que j'ai eu même dernièrement un échographiste très sympa qui avait fait l'échographie 2 ans avant et qui m'appelle, il me dit, mais je comprends pas, ma patiente n'a plus de NASH, n'a plus de stéatose. Vous pouvez m'expliquer, je lui ai dit. Tout simplement parce qu'on a pris le taureau par les cornes, mais la patiente le voulait aussi, elle a perdu du poids, elle a changé son mode alimentaire et elle a fait de l'exercice. C'est paradoxal parce que dans le diabète ou que ce soit dans la NASH, c'est les mêmes méthodes. C'est qu'en fait, on est dans une civilisation du trop. C'est trop. Il y a trop de trucs. Et comme d'abord, il y a trop de trucs, et en plus, dans les trucs, il y a des trucs. C'est-à-dire qu'il y a des perturbateurs endocriniens, des emballages qui lâchent des produits, des pesticides sur les... Je veux dire, à un moment, notre foie, il était peut-être fait pour les racines qu'on mangeait en dehors de la caverne sans se faire bouffer soi-même, mais il n'est pas fait pour avaler tous ces produits chimiques. D'autant que, vous savez, dans la réglementation, parce que c'est réglementé tout ça, vous avez des polluants. Mais ces polluants ou ces additifs, le fabricant doit donner la fiche de non-toxicité de cet additif. Mais on ne fait pas les néoformés. C'est-à-dire l'association de deux additifs, le résultat de l'association. Et en plus, quand vous cuisez l'additif, il va changer. C'est comme la cigarette. Il y a des additifs dans le
tabac. Quand vous la brûlez, vous allez créer
ce qu'on appelle des composés néoformés, qui sont, eux, extrêmement toxiques. C'est pour ça qu'ils ont sorti d'ailleurs, les fabricants, ils ont compris, ils ont sorti la basse température. Parce qu'ils savent très bien que quand on cuit trop, eh bien on a des composés qui sont très toxiques.
Alors vous, comment vous prenez le taureau par les cornes ?
Alors on commence par un nouvel équilibre alimentaire. J'ai horreur du terme de régime parce que ça veut rien dire. Parce que nous, on est tous au régime hypercalorique. On mange tous trop. Tous. Il n'y en a pas un
qui... C'est un régime alimentaire. De toute façon.
Voilà.
Un régime, ça ne veut pas dire que vous voulez perdre du poids. Voilà. Un régime, c'est la façon dont vous nourrissez.
Voilà. Et donc, je dois avouer que je suis extrêmement ferme avec, dans le sens négatif, avec la consommation de féculents. Je vois tous les jours des recommandations où il faut manger des féculents, 100 grammes de féculents midi et soir. Alors ça, j'en ai fait presque un problème. C'est pour caler. Non. Ça vient d'une tradition. Alors il faut d'abord, parce que j'ai posé des questions à chaque fois, j'ennuie la terre entière avec ça. La première chose, c'est que c'est la consommation constatée des Français dans les années 50-60. Il n'y a plus de rapport entre les Français de 50-60 et les Français de 2020. Hein, ça ne vous a pas échappé. Parce qu'aujourd'hui, on est chez soi, on se fait livrer, on fait machin, on ne fait plus rien. Voilà. Deuxièmement, je suis un peu négatif, hein, mais quand même. Hein. Deuxièmement, il y a aussi le fait que chez les diabétiques de type 1, c'est-à-dire ceux qui doivent s'injecter, il y a plus d'une vingtaine d'années, on utilisait des insulines qui étaient très hypoglycémiantes. Et s'il y a une chose dont un médecin a la terreur et diététicienne oui, aussi, c'est l'hypo. Le type conduit, fait une hypoglycémie, on fait quoi? Donc, on conseillait, à juste titre à l'époque, hein, de prendre des féculents. Parce que... Mais aujourd'hui, les insulines pour les diabétiques de type 1 sont beaucoup moins hypoglycémiantes. Il y a beaucoup moins d'accidents. Elles sont vraiment de meilleure qualité. Donc tout ça, c'est resté, en fait. Voilà. Et donc, dans ma recommandation, je préfère largement les légumineuses, hein, avec quantifiées. Je conseille souvent un bol chinois de légumineuses, soit des lentilles. Je rappelle qu'il faut les faire tremper la veille pour éviter d'avoir des flatulences.
Mais lentilles, c'est pas parce que c'est bon que c'est à volonté. Hein.
Voilà, exactement, parce que voilà. Je rappelle aussi pour les obsédés du lentille par rapport au steak que le fer dans les lentilles, il est absorbé à 5%. Le fer dans le steak, il est absorbé à 30%. Donc il faudrait manger 6 fois
plus de lentilles.
Haricots blancs, haricots rouges, topinambours. Pois chiche, qui est un excellent pois chiche, excellent. Voilà. Et petit pois, plutôt que des faits.
Il n'y a pas de sucre dans les pois chiches?
Bien sûr.
Attention, ouais.
Il y a de l'amidon, ouais. Mais ce n'est pas le même. En fait, c'est une excellente question. C'est que.
Non, parce qu'on dit toujours que le pois chiche, c'est le légume universel.
Universel.
Mais pareil, ce n'est pas à volonté.
Ce n'est pas à volonté. Mais le pois chiche, ça a fait. Je connais bien en Tunisie, il y avait un bol qui valait un sou. On mettait le pois chiche, de la harissa, un peu d'huile d'olive, et c'était le bol du pauvre. Celui qui n'avait pas les moyens, il mangeait ça. C'était très roboratif. Et ça apportait des vitamines, des minéraux, des sucres, un peu de protéines. Donc voilà. Ça, c'est. Non, le pois chiche, il n'y a rien à dire. Mais le pois chiche roumous, c'est pas pareil. Le roumous, il est écrasé, il est très gras, on en mange beaucoup et on le mange avec le pain en général. Voilà. Donc je précise un peu parce que moi j'adore ces genres de choses, vous vous en doutez. Donc parce que pour conseiller les gens sur l'alimentation, il faut aimer manger. Ça c'est.
Non, c'est vrai. Et il faut aimer les gardes de triage, mais c'est un autre sujet.
Ah oui, la garde de triage, on en parlera après.
Bon, voilà. donc légumineuses.
Je comprends. Donc légumineuses sous la forme d'un bol chinois, et puis donc remplacer les féculents avantageusement par les légumineuses en petite quantité, bol chinois, parce que bol chinois ça fait 10 cm de diamètre. Ça ne veut pas dire que féculents, jamais. Ça veut dire qu'une fois par semaine, on peut avoir des féculents, si on aime le riz, les pâtes et les pommes de terre. Mais sachez que l'amidon des féculents n'est pas le même en quantité que l'amidon des légumineuses, amylose, amylopectine. Mais je crois qu'on avait déjà ensemble fait
une émission. Oui, on a fait une émission là-dessus, mais c'est passionnant, de toute façon. On peut répéter les messages.
Alors, en fait, vous avez deux types d'amidon. Donc l'amidon, souvenez-vous, c'est les sucres de réserve des plantes. Des céréales. Donc vous avez des chaînes de glucose attachées les uns aux autres. Mais ils ne sont pas attachés n'importe comment. Dans un cas, ils sont attachés en ellipse, comme ça, un cercle qui s'écarte du centre. Ça s'appelle l'amylose. Et dans un autre cas, c'est comme un arbre cerisier avec des branches. Et ça s'appelle l'amylopectine. L'amylose, c'est difficile de capter les sucres. L'amylopectine, ça tombe du fruit mûr. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre méthode?
Donc, l'amylopectine fait augmenter le sucre beaucoup plus que l'amylose. Et donc, dans les légumineuses, il y a 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. Alors que dans une pomme de terre, il y a 80% d'amylopectine. Vous comprenez? Et en plus, il y a des fibres dans les légumineuses, il y a des vitamines, il y a des minéraux. Et donc, les fibres, c'est extrêmement bon pour la flore bactérienne intestinale qui finit le travail du foie.
Voilà. Quoi d'autre dans votre méthode, justement, pour soigner la NASH?
Alors, d'abord, un certain rythme de repas. Il faut... moi, je considère que c'est un peu comme aller rentrer dans l'armée. Il faut manger hors fixe, il faut manger en connaissance de cause, pas regarder la télé, parce que quand on regarde la télé, on mange 15% de plus. Donc c'est, voilà, le rythme, une protéine par jour, et ainsi de suite. Et puis les desserts, c'est un fruit ou un yaourt nature, ou un fromage blanc. Et si on aime le chocolat, on met du cacao en poudre, en gluten dedans, c'est très bien. Mais il y a surtout un deuxième facteur dans la... C'est, alors, bien sûr, une fois par semaine, il y a un repas libre. Complètement libre, parce que sinon
ce qu'on appelle le cheat meal.
Le cheat meal, voilà.
Et on mange ce qu'on en argot, voilà. Tout ce que vous voulez.
Limiter l'alcool, parce que l'alcool c'est.
C'est pas interdit.
Non, vous savez, un verre de vin rouge par jour, un bon verre de vin rouge tannique, c'est plutôt. Il y a du resveratrol, il y a des choses. Alors il y a des gens qui vont dire mais non, mais bon, la vie c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais surtout, c'est l'exercice. C'est-à-dire que l'exercice, pourquoi c'est important? Comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, le foie se détoxifie en fonction du débit cardiaque. Donc quand on fait du cardio, on augmente le débit cardiaque, et donc le foie a tout à fait la possibilité justement de mieux se détoxifier. Donc on peut faire, soit on fait du cardio, donc on fait alors vélo, elliptique, course à pied, natation. Bon, le mieux c'est la boxe, hein, vous le savez, mais bon.
Ah ben la boxe, c'est l'idéal.
L'idéal, vraiment. Et ainsi de suite. Natation aussi, c'est pas mal du tout. Et il faut alors on le fait soit en cardio, c'est-à-dire en régulier, on monte par palier. Et il faut faire attention. Ce qui est très embêtant, c'est qu'à un moment on prend des habitudes. C'est-à-dire que les gens disent ah mais docteur je marche. Je fais 4 km, très bien, mais ils se dépassent plus. Ils sont plus en dehors de leur zone de confort.
Ils sont pépères,
ils sont. Et donc, il n'y a plus l'effet recherché. Donc, il faut mouiller la chemise quand même. Ou sinon, vous le faites en fractionné. Fractionné, c'est simple. Vous faites sur une dizaine de séries, vous faites 2-3 minutes, vous courez comme ça en sifflotant, en chantant. C'est la bonne façon de savoir si on court vite ou pas vite, parce qu'on peut siffloter ou chanter. Et puis pendant 30 secondes, on est à fond. Et à ce moment-là, le cœur va fabriquer ce qu'on appelle des peptides natriurétiques, c'est-à-dire des peptides qui vont faire sortir le gras. Et c'est génial. C'est mon maître, monsieur Max Lafontaine, qui est un des génies de l'organisation et de la gestion du gras dans l'organisme, qui les a découverts il y a 20 ans. C'est une découverte française. ANP-BNP. D'ailleurs, la BNP, qui est sécrétée par le muscle cardiaque, il est mesuré en cas d'infarctus, par exemple. Parce que c'est la souffrance du muscle cardiaque.
Et donc là, c'est sur quelle durée donc,
Moi, je fais des durées qui vont. Ça peut durer. 9 mois, 1 an, 18 mois, et je les suis bien entendu, on en discute, parce que parfois il y a des phases plateaux, voilà, mais quand les gens ont compris, c'est beaucoup plus facile.
Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Je rappelle, docteur Alouche, que vous publiez Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Vous le voyez à l'écran. Merci d'avoir été avec nous, doc.
Merci de m'avoir
et
invité.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.
Beurrefm, la rediff. La rediff. La rediff.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans la situation de la période estivale. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Attention aux vols qui sont annulés. 1000 vols annulés, vous êtes au courant de ça les amis? 1000, tiens Solal il va ouvrir les micros. Bonsoir Solal, ça va Solal? Tout va bien? Il s'est retrouvé coincé dans le métro, il m'a envoyé une photo chargée. Je sais pas comment il a fait mais bon... Ouais, exactement. Tiens, je vais faire un petit tour de table. Augustin Vag, bonjour.
Bonsoir à tous. Super.
Le retour de vacances de.
Il est pas très bronzé. Hein.
Si, ça va.
Il a fait des chantiers à l'intérieur.
Non, j'ai fait le chantier.
Les écologistes.
La terrasse était déjà faite.
Exactement. Maître David Libeskind, ça va?
Bonsoir, ça va.
Tout va bien?
Tout va bien.
Bon. Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce que vous pianotez à Saint-Ben-Barret?
Je regarde.
Regardez les news. Président d'un collectif de Bolio, ça va? Mais oui, alors 1000 vols qui ont été annulés partout en France. Ça concerne, vous savez combien? 500 000 voyageurs, les amis.
C'est wow. Rien que ça.
Ouais, 500 000.
Et ça va durer encore?
Pour quelle raison? Il y a une grève?
Les aiguilleurs du ciel.
En
période de vacances.
Les contrôleurs du ciel.
Non mais attendez, la faute à qui? Il a raison, il me pose une vraie question, notre ami Maître
Je pense que c'est une grave, non?
Deux syndicats minoritaires qui foutent le bazar.
Deux syndicats pilotes, la capacité.
Deux syndicats minoritaires qui ont décidé, vous savez quoi? Alors peut-être qu'il faut, c'est pas le terme qu'il faut utiliser, prendre en otage tous les vacanciers.
Comme quoi il suffit pas d'être nombreux.
Ah, ils sont 200. 200, je vous le dis.
Ça suffit, 200 pour aller 1000 vols.
200 dans toute la France. C'est quoi? Et en face, 500 000 voyageurs.
Et encore, c'est pas terminé. Je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire la semaine prochaine. C'est pas encore terminé, cette affaire.
Non, mais moi, je trouve que c'est. En vrai, on va se dire les choses. Tu choisis pas le jour des départs de vacanciers.
Et puis, si c'est pas la SNCF.
Non, je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Parce que il y a des gens. Il y a des mères de famille. Les pauvres.
Elles attendent toute l'année pour partir en vacances.
D'abord, il y a ça. Elles sont seules, elles sont divorcées. Elles ont travaillé. Elles ont travaillé d'arrache-pied toute l'année pour faire plaisir à leurs enfants. Elles sont 2, 3, 4. Et elles perdent
des conditions sociales. Je pense que
c'est respecté. Regardez comment ils travaillent.
Non,
ils travaillent.
Je suis désolé. Franchement,
on n'est pas dans Germinal.
Non, non.
C'est pas Émile Zola, les
conditions sociales. C'est pas Émile Zola, oui, c'est vrai. Mais non, mais s'ils veulent faire. Moi, je suis pas contre les grèves. S'ils veulent manifester, faites les gars, il n'y a pas de problème. Mais faites-le aussi avant, pendant.
C'est-à-dire dans ce pays, on manifeste et après. Dans ce pays, on manifeste, et on fait des blocages sans, au préalable, discussion,
assez
échange.
Attendez, les amis,
c'est ça le problème. C'est qu'il y a une grève. La grève est le préalable à la discussion dans ce pays. Quoi.
Oui, mais c'est un vrai le principe de la grève, c'est justement d'être dans la nuisance pour créer le rapport de force.
Mais avant la grève, il y a le débat, il y a l'échange.
Vous voulez quand même pas qu'il y ait le dialogue social. Du 7 janvier au 14 janvier.
200 personnes.
Ouais,
alors il y a plein de gens extrêmement bien rémunérés qui prennent en otage.
Vous savez combien ils prennent?
Qui prennent en otage.
Ils travaillent 25 heures à 30 heures par semaine.
Qui prennent en otage plus de 500 000 personnes
et c'est pas
qui,
terminé.
Qui partent à la veille de leur départ et en plus souvent des gens de classe populaire qui ont un petit billet pour essayer de partir à l'étranger.
Mais évidemment.
Non mais voilà, ce pays c'est, et en plus c'est l'image de notre pays derrière.
Vous savez quoi, ça me
c'est l'image de notre pays.
Ça me donne ça
à l'étranger.
Non, mais moi ça me je soutiens la thèse qui consiste à dire qu'il faut revoir la loi pour le droit de
comme en Italie.
Il avait revu pour la RATP, la SNCF avec un service public minimum.
Le droit de manifester, ça inscrit
dans le droit de manifester. Le droit de manifester, c'est très bien. Il y a le dialogue social avant la grève, quand même.
Et quand il n'y a pas de grève,
et après on discute dans ce pays.
Non. Ce que tu dis est complètement inexact. Généralement,
c'est complètement inexact.
Oui, c'est inexact. Moi, je suis avocat en droit du travail, je sais aussi comment ça fonctionne.
C'est pas un brevet.
Et donc, il y a toujours des alertes qui sont faites à la direction avec des menaces de grève. Donc, il y a un dialogue social avant, mais souvent la direction ne veut pas. Donc, le dialogue social a lieu après, puisque là, on voit bien. Il y a un blocage, évidemment. S'ils font grève l'été, c'est parce qu'ils savent que ça va gêner.
C'est légitime. Tout blocage est légitime pour vous, quoi.
Bah, ça dépend.
Il y a des millions de familles qui peuvent pas se retrouver.
Là, je suis assez sceptique parce qu'on sait que
des personnes qui ont gardé leur vie,
qui ont leur famille
pour des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on fait pour elles?
Exactement, on fait quoi?
Tout est dans le blocage pour vous.
Qu'est-ce que tu parles des raisons de santé? Non, mais raisons de santé.
Il y en a qui vont dans des pays pour rejoindre leur famille qui ont des problèmes de santé. Il y en a qui ont été interviewés là-dessus.
Tout à fait, mais
et on fait comment pour
prendre en compte? Le droit de grève ne prend pas en compte.
En même temps que ça vous concerne pas.
Non, mais bon.
Mais après, bon.
Je trouve que bloqué, enfin, c'est terrible, on est à la veille, là, quelques heures des départs du
matin. S'il y avait eu un
dialogue
social au préalable et que les grévistes avaient eu satisfaction, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, l'inflation, elle est galopante et les salaires ne suivent pas.
Et c'est quoi leur revendication aux aiguilles du ciel, en fait?
Mais c'est pourquoi? Le pointage.
Ah, le pointage.
C'est le pointage. C'est quoi? C'est parce que le pointage, les modalités ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, désormais, il y a plus de surveillance. Elle devient accrue de plus en plus. Donc c'est le pointage.
Le pointage.
Bah, c'est normal, tu vas au boulot, c'est pour travailler, c'est pas pour
le badge. C'est ça le vrai problème.
C'est la revendication, c'est on est fliqués.
Sous Germinal aussi, c'était le pointage.
On est fliqués. On est fliqués.
Je crois qu'ils sont trop heureux dans leurs conditions de travail si c'est leur seule revendication.
Ah, mais genre, tu t'absentes pas. Là. C'est reproche, si tu veux, le flicage à tout va. Voilà. Tu vas aller prendre un café, tu descends une minute, on sait que t'es parti prendre un café pendant 10, 15, 30 minutes. Et tu décomptes. Bah moi ça me choque pas, moi, t'es au boulot quand même.
Bah oui, bien sûr.
Tu vas pas
dans chaque entreprise, il y a des badges, il y a des badges. Voilà,
attends, moi j'organise des réunions dans mon bureau avec mes agents et je prends un café. Du coup, ça compte pour une pause, ça compte.
Vous avez droit à la pause, vous avez droit à 15 minutes toutes les 3 heures, je crois.
Tous les 6 heures, t'as le droit à 20 minutes.
Faut être sérieux un moment.
C'est pour les.
Alors 20 minutes, oui, au bout de 6 heures de travail consécutif.
Oui, évidemment. Et ben on va dire à nos à nos auditeurs qui partent en vacances, par exemple, est-ce qu'ils ont subi, hein, justement, regardez, c'est marqué partout, plus de 1000 vols annulés. Oui. Les voyageurs et les voyageuses, justement, ceux qui partent en vacances, est-ce que vous, hein, si vous avez un coup de gueule à l'antenne, n'hésitez pas, 01 53 48 3000, Solal vous attend, tout de suite, voilà, de Marseille, en passant par Paris, Nice,
beaucoup d'aéroports du Sud. On compte sur les délégués syndicaux pour appeler.
Oui, tout le monde a le droit d'appeler, oui,
et les usagers.
Moi, vous savez, Abdeslam Itach, tout le monde a le droit de citer ici, hein, tout le monde a le droit de parole. Donc il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Vous nous appelez les syndicalistes, vous nous dites voilà les raisons pour lesquelles qu'est-ce qui vous pousse le jour du départ de vacances. 500 000 voyageurs. Moi je pousse mon coup de gueule.
Tu nous fais du Sarko, a-t-il.
Je fais du Sarko.
Mais non,
je pense à ses familles, les pauvres. Je vous jure, Abdeslam Itach, s'il vous plaît, arrêtez de parler de ça. Moi je vous jure, j'ai de la peine pour ces familles qui sont seules, parce que je vous dis, j'ai l'exemple ce matin. Des mères de famille.
Si le travail avait été fait en amont.
Elles ont 3-4 gamins, se sont battus comme des malades toute l'année.
Mais à qui la faute ?
Ils sont partis en vacances.
Toute l'année, ouais.
Deux semaines, les pauvres.
Mais tu as raison, mais à qui la faute ?
Elles, voilà, elles sont contraintes
à cause du pointage et du flicage.
Qui a pas voulu,
justement. C'est pas que la faute des patrons.
Les doléances des salariés.
Non. Moi, c'est ces familles qui me font de la peine, Abdeslam Itach.
C'est pas
le reste, je m'en fous.
Les familles du personnel.
Moi, je vous dis la vérité, le reste, je m'en fous. Moi, c'est ces familles qui, toute l'année, ne prennent jamais de vacances. Elles en connaissent. Vous en connaissez aussi.
Tu nous as fait du Sarko, là, tu nous fais du même.
Non, il a
raison, là, c'est des pilotes.
Mais c'est la vraie vie, c'est pas du Sarko.
Il y en a qui
la proximité, bien la vraie sûr. Vie, la vie du, de tous les jours, qui nous concerne tous les jours. À un moment, faut arrêter de parler de Sarkozy ou de Retailleau. On parle de la vérité qui nous concerne dans notre quotidien.
Et puis, je me suis dit, si Retailleau et Sarkozy disent que le soleil, il est.
Pourquoi on doit laisser ça à la droite ?
C'est beau et qu'il fait payer.
Faut pas laisser ça à la droite.
C'est pour ça que
les écologistes, vous avez du mal à avancer. Vous laissez certains sujets à la droite, traités par la droite. Eh ben non.
Parce que nous, on voit du prisme social et qu'on voit qu'en effet, dans ce pays, eh bien, les gens n'arrivent pas à joindre
le
bout.
On peut plus le payer, le social.
Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec
heureusement, Maître David, c'est vrai.
Non, après, moi, je pense que pour certaines catégories, comme les pilotes, excuse-moi, ils font juste grève pour une histoire de pointage, ça me met hors de moi. Il y a des familles qui économisent toute l'année.
Attends,
ce moment.
Eh ben, ils se réveillent.
Les chefs de service auraient dû désamorcer. Je suis désolé.
Ils se réveillent.
Badgeuse,
01 53 48 3000, vous nous appelez, vous nous dites ce que vous en pensez. On vous attend au standard. Au sommet, on va parler aussi du budget de l'État avec la finance publique qui va très très mal avec cette reprise de contrôle impérative. Justement, on parle d'urgence vitale, vous savez. Je ne sais pas si c'est le mot là qui sonne dans toutes les oreilles, la petite musique qu'on veut mettre dans tous les esprits. Vous savez pourquoi ? Je vais vous la donner. Parce qu'on va payer plus d'impôts, tout simplement. Voilà. On va parler de la situation à Gaza. À Gaza, avec Netanyahou, sa déclaration qui promet d'éliminer le Hamas. Mais on n'entend que ça depuis le début. Pour le moment,
Là, il élimine surtout les Palestiniens.
Bon. Il élimine surtout les enfants et les mamans. On en parle aussi. Hein. On parlera aussi de l'avenir des quartiers. Parce que ça aussi, personne n'en parle. Est-ce que ça passe par le renouvellement urbain ? Est-ce que l'avenir des quartiers se joue aussi ? Est-ce que l'avenir, pardonnez-moi, se joue dans les quartiers pauvres ? C'est ça aussi, hein, la France de demain. On va en parler. 01 53 48 3000. Le docteur Majid Soussine viendra tout à l'heure à 19h30 nous livrer son billet d'humeur. C'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Le face-à-face.
Les routes sont blindées. Hein. Je vois les images là, les routes sont déjà blindées. C'est vrai, c'est le départ des vacances. Soyez prudents. Mais écoutez, BFM, on va parler du budget de l'État. 01 53 48 3000. J'y tiens absolument. Venez nous donner votre avis sur les 500 000 voyageurs qui sont sur le carreau, qui attendent leur vol dans toute la France et les 1000 vols qui ont été annulés. État d'urgence budgétaire, Maître David. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est François Béraud.
Franchement, ça fait quoi, moins de 10-15 ans que j'entends ce discours.
Moi aussi.
Alors, effectivement, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a alerté.
Sauf que là, c'est chaud.
Oui, mais c'est chaud, mais oui, il faut qu'ils trouvent 40 milliards d'économies. Mais en fait, le plan budgétaire, d'après les informations de la presse qui ont fuité, qui va présenter, là, je crois que c'est le 15 juillet.
15 juillet, 15.
C'est quoi, en fait ? C'est les remboursements des soins. Hein, voilà, il y aura moins de remboursements des soins. Il y aura, là, ça par contre, ça serait une erreur politique.
Alors, c'est dans le PLF,
l'augmentation des impôts, là, ça serait une erreur politique. S'il augmente les impôts pour les plus riches, pour les 10% français les plus riches, ok, là, ces gens-là, il faut les taxer. C'est la justice sociale.
Vous parlez des ultra-riches.
Oui, les ultra-riches. là faut vraiment, ou même les multinationales, là faut quand même les taxer. Là il va proposer un impôt temporaire, je crois, sur alors pas les ultra riches.
On connaît les impôts temporaires qui durent
sur les multinationales.
Comme la CRDS qui devait être juste.
Mais le français moyen déjà.
Voilà, et le gel. Voilà,
de toute façon, ça
gèle. Voilà, le gel du SMIC, le gel des retraites,
du point d'indice du fonctionnaire.
Mais je vois pas comment il pourrait économiser 40 milliards. 40 milliards avec un tel budget, sachant que les dépenses militaires vont augmenter.
En fait, ça sera plus que ça que 40 milliards qu'il faut trouver. 40 milliards, c'est juste pour rassurer un peu.
Comment on fait
rassurer dans l'inquiétude.
C'est quoi cette urgence pour freiner justement les dépenses de publique?
Tout simplement qu'il faut trouver, des dépenses, il faut tailler dans la dépense publique. Les impôts, c'est tellement facile, c'est un levier facile pour les pouvoirs publics d'augmenter les impôts. Après, taxer les plus riches, les ultra riches, pourquoi pas, mais après, c'est pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Et l'année prochaine, on fera quoi? Est-ce qu'ils vont rester les ultra riches? Parce qu'on a besoin des ultra riches en France.
Oh là là.
Donc, bah oui, on a besoin des ultra riches en France.
Mais c'est pas avec ce type de discours qu'on va avancer en fait.
Non, mais on a pas besoin de justice sociale alors. On a besoin aussi des ultra riches. J'ai pas dit qu'on a besoin que des ultra riches, mais on a besoin aussi des ultra riches.
Dans les meilleures écoles,
d'accord.
Pourquoi on a besoin des ultra riches?
Non, mais on a besoin des gens qui payent l'impôt sur la fortune.
On
n'a
pas besoin des ultra riches.
On a besoin des gens qui payent l'impôt.
C'est une question de justice sociale.
Il y a de moins en moins de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent. En fait, je vais vous dire, s'il y avait 1 million de personnes qui travaillaient dans le privé en plus, on aurait moins de problèmes de déficit.
Là, mais on a
un million de personnes, il y a un problème de productivité.
Non, justement, on a des salariés les plus productifs.
Oui, ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, mais en volume. En France, on a 10 à 15% de productivité en moins que nos voisins européens. Il manque 1 million de travailleurs, de gens qui travaillent en privé. De privé, c'est des stats.
Les entreprises n'embauchent plus les 50
millions. Oui, mais il n'y a pas assez aussi de gens qui
créent des emplois.
D'accord avec mon collègue, c'est-à-dire trop d'impôts tue l'impôt. Oui. Ça, c'est la première des choses.
On s'oriente vers ça.
Oui. Et bon, la seconde chose par rapport aux fonctionnaires, en tout cas, le fait que des gens qui sont de la fonction publique puissent aller dans le privé, il est vrai que lorsqu'on compare à l'Allemagne avec un nombre de fonctionnaires peut-être
équivalent
ou un peu moins, ouais. D'accord, s'occupe d'une population de 90 millions. Alors
c'est pas les mêmes
France,
services publics.
Oui, c'est pas les mêmes services, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Allemagne est un pays qui, au niveau des services publics, a de fortes lacunes.
C'est sûr.
Je ne vais pas le dire, ça c'est la deuxième chose. Oui. Troisième chose, ça fait des années qu'on entend que la France est en déficit et que, au fond, le problème c'est toujours un peu le même. Hein. C'est-à-dire que les frais, en tout cas les charges au travers des services publics augmentent, mais en revanche, les recettes, il y en a de moins en moins. Et avec ce qui se passe aux États-Unis avec la montée des frais de douane, en tout cas, donc là, ça va être encore un peu plus difficile pour les entreprises donc, d'exporter et donc de créer de la richesse. Donc, et pour finir, pour ce que vous disiez sur le fait qu'il nous faut des riches, oui, il nous faut des riches pour monter des entreprises.
Mais l'état d'urgence budgétaire, il est où? Situé où, Abdeslamitash Hassan Benbaï? Non, mais l'urgence, là, on nous parle d'urgence vitale.
Là,
d'urgence, d'état d'urgence budgétaire. On va chercher où cet argent?
Le CESE, il travaille 4 jours par mois, ils sont payés 2500 euros par mois.
Troisième chambre.
Je finis juste.
Conseil économique et social.
Alors, on va chercher où? Alors, moi, comment j'interprète cette déclaration de Bayrou? C'est une opération de communication, c'est pour dire voilà, on est, excusez-moi l'expression, un peu dans la galère, voilà ce qui se passe, et on va essayer de dire aux Français,
il faut en payer. La France est en galère.
Oui, mais lui, pour l'instant, il est Premier ministre, avec ses ministres, ils ont un problème à régler, c'est d'essayer de plus ou moins d'équilibrer les comptes.
Mais on va chercher où alors?
Alors, ce qu'ils vont faire, c'est forcément augmenter les impôts, réduire les charges, c'est-à-dire
supprimer les agences
les dépenses,
ça serait bien aussi.
Voir là où il y a des services sociaux.
À commencer par l'Assemblée nationale.
Mais il faudrait, mais surtout, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Il faudrait surtout s'occuper du Sénat et de tous ceux qui ont des avantages.
Et
les
cumuls
des retraites aussi, il faudra en parler.
Oui, ou le CESE.
Les politiques qui cumulent des retraites.
Tout d'abord,
c'est toutes ces personnes qui sont sur le carreau, qui sont mises à l'écart, justement, de leur contribution, justement, à la société, qui voudraient bien être contributeurs. Moi, je rêverais. Payer 1 million d'euros d'impôts par an, j'en serais ravi. Aujourd'hui, on fait quoi? On a des entreprises qui mécanisent les chaînes, d'accord, qui ne taxent pas les robots, et on se retrouve avec des charges sociales qui n'entrent plus. Eh bien, on a ce problème. problème, il faut absolument taxer ces machines pour pouvoir rapporter de la ressource.
Toutes les boîtes n'ont pas des machines déjà.
Il faudra aller chercher l'argent.
C'est eux qui créent la richesse.
Je vais continuer mon propos. La deuxième, faudrait commencer. Mais il y a aussi de grandes entreprises.
Non mais la richesse elle vient.
Non mais il fallait chercher l'argent là où il est.
Il a raison.
On a peur de faire les poches aux millionnaires.
Ouais, et aux collectivités territoriales, il y a des soins aussi à faire aussi.
On a peur qu'ils partent. Voilà.
Il y a des gabegies aussi.
Je connais mieux la fonction publique territoriale que vous.
Qu'est-ce que vous en savez, Jean?
Ça fait 35 ans que je
travaille.
Ça fait 35 ans que je suis dedans. Donc je vais juste vous dire, puisque vous parlez de la fonction publique territoriale,
il y a des soins à faire.
Alors je vais vous expliquer une chose.
Allez-y.
Sur mon précédent poste, j'étais responsable de la maintenance des 130 collèges du département de Seine-Saint-Denis. Eh bien, figurez-vous que lorsque j'ai cherché à recruter des électriciens ou des maçons ou des plombiers, eh bien, à l'entretien, lorsque je leur annonçais le salaire, eh bien, ils me disaient, mais monsieur, je touche une fois et demie ce que vous me proposez. Parce que on a été victime du gel du point d'indice dans la fonction publique territoriale, au point que ça n'est plus devenu attractif. C'est bien ça le problème.
On lance la pause parce que Solal me dit vite, sinon on va être coupé. On lance la pause, 0153483000, il y a Souila qui nous appelle du 95. On la prend tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Hassan Benbarek, avec Maître David Libeskid, avec Augustin Varg, pardon, et enfin Abdeslam Ita.